Daniel Lachance, merci d'être avec nous aujourd'hui.
Oui, bonjour Sam.
Donc, Daniel,
Donc,
si tu pouvais te présenter, tu es situé où au Québec, puis qu'est-ce que ton entreprise donne comme service?
d'accord. Ben d'abord, peut-être une courte présentation de Daniel Lachance, le fondateur de l'entreprise. Donc, moi, je suis consultant en écoforesterie, en agroforesterie naturelle et en permaculture végétale. Et je suis ingénieur forestier aussi, donc je tente actuellement de rapatrier des fondements des forêts nourricières et de renouveler la pensée forestière à partir de concepts nourriciers, de plantes médicinales, d'extraits végétaux pour la fertilisation également. Donc je travaille, le chêne au pied bleu, que je devrais dire, travaille sur deux axes de développement principaux, les comestibles, les plantes médicinales que je dirais sauvages, indigènes, du pays, donc sur lequel on travaille à les mettre en valeur, soit sous la forme de travaux sur l'écosystème ou encore directement par la mise en valeur, par la cueillette en quelque sorte. Et le second axe, c'est celui de l'agroforesterie naturelle sur les bases de la permaculture, c'est-à-dire tout ce qui touche à la culture. Culture évidemment multistrate, donc culture d'arbres, d'arbustes, de plantes herbacées, avec introduction de végétaux auxiliaires qui servent à nourrir l'écosystème, donc aussi bien, donc qui ont une fonction écosystémique. Sur lequel on prélèvera pas nécessairement, pas systématiquement une ressource directe, mais qui va agir à favoriser la ressource la ressource qu'on va éventuellement cueillir en enrichissant l'écosystème. Le chêne au pied bleu, ben, c'est plus que Daniel Lachance, parce que sinon Daniel Lachance aurait de la misère à dormir, parce que c'est l'ensemble permaculture au Québec, on s'entend que c'est quelque chose d'assez récent. On ne peut pas prétendre à avoir de notoriété en permaculture au Québec, qui que ce soit, sauf peut-être une exception, parce que la longévité de nos projets est assez relativement courte. Donc, c'est un modèle d'affaires assez unique. Moi, je suis issu d'une école, de l'école un peu des coopératives. J'en ai fait quelques-unes dans les années passées. Et j'ai toujours cru que la collaboration était quelque chose qui favorisait beaucoup l'émergence d'idées nouvelles. Alors, j'ai fondé mon entreprise en partenariat avec d'autres entrepreneurs de la région. Nous sommes sept, donc qui nous permet chacun, et chacun on est autonome au niveau de notre entreprise, mais ça permet de développer au sein du chêne au pied bleu une expertise qui va au-delà de la mienne et qui fait que certains projets complètement fous actuellement sont en train de voir le jour un peu partout dans la province. Donc, le chêne au pied bleu travaille partout au Québec actuellement à développer des projets dans toutes les directions parce que chacun des projets qu'on développe a une saveur unique. C'est quelque chose qui vise, c'est une approche qui vise beaucoup à faire émerger naturellement le projet parce que je pense qu'à toutes les fois que je rencontre un client, le projet est jamais loin, il est latent dans son esprit. Souvent, il demande juste à être conforté, à émerger, à aller du côté d'une forme d'accouchement. Je pense à la maïeutique de Socrate, mais on ne s'embarquera pas là-dedans. On va se perdre sinon. Mais ceci dit, je me l'ai fait dire dans une conférence de presse dans le Bas-Saint-Laurent, le projet, il était là. C'est la chance, tout ce qu'il a fait, c'est le faire sortir, le faire émerger, puis le mettre évidemment en application avec mon équipe d'agronomes, d'horticulteurs, de spécialistes du thé de compost, pelle mécanique, enfin, on a une merveilleuse équipe. Voilà.
Ben, juste faire une aparté parce que tu l'as lancé, la maïeutique, c'est l'art de faire accoucher, hein, accoucher une idée dans la personne qui l'a, mais aussi, c'est aussi à la base de les principes de permaculture, de faire accoucher de l'écosystème, le diriger vers ce qui naturellement il aurait fait, mais tout en maximisant les services et bien pour l'humain qui l'habite. Donc, je voulais sauter dessus parce que tu l'as mis dans notre face. Mais pour revenir au chêne au pied bleu, donc c'est un service conseil. Puis ce qui est surprenant, c'est que c'est un service conseil qui est homologué comme agri-conseiller, c'est-à-dire, ça, c'est un programme du ministère de l'Agriculture. Et je dis que c'est surprenant parce que c'est un agri-conseiller en permaculture. Au sein de la grande institution d'agriculture plus conventionnelle. Comment t'as fait pour te greffer à cette institution-là? Comment te proposer ton modèle d'affaires?
Bien, d'abord, tout ce qui touche aux comestibles, effectivement, c'est le ministère de l'Agriculture, qui est le MAPAC, donc, qui est redevable. En fait, si on fait une courte histoire, il y a eu pendant nombre d'années entre les ingénieurs forestiers et les agronomes, ou entre le ministère qui gère les forêts et le MAPAC, tout le monde se regardait pour savoir où on doit positionner les PFNL, notamment, tu sais, d'une part, c'est une ressource forestière ou agroforestière, qu'on devrait dire, et d'autre part, c'est un comestible, c'est donc le MAPAC, avec le temps, qui est devenu tributaire de cette ressource-là. Donc, comme moi, la vocation dite forestière, je fais pas de foresterie dite traditionnelle, c'est-à-dire qu'actuellement, je travaille beaucoup à faire de la sylviculture qui intègre les principes de forêt nourricière. Ça me paraît le demain du Québec en termes de foresterie de proximité. Et donc, on est davantage du côté, je mets en valeur le comestible a priori. Donc, justement, j'avais une discussion avec l'Ordre des ingénieurs forestiers hier pour savoir c'est à quoi les limites de l'ingénieur forestier en termes de comestible. Est-ce que je peux, moi, faire des prescriptions sylvicoles dont le but c'est de mettre en valeur des comestibles? La réponse était oui. Donc, il y a un virage majeur là, du côté de la foresterie aussi, qui dit « OK, on peut faire maintenant une prescription qui vise en premier à produire du comestible et en second, les arbres. » Ou à l'inverse, selon les peuplements forestiers, parce qu'encore là, autant qu'il y a de projets qui collent à la volonté du propriétaire, autant chacun des projets qu'on fait doit coller, tu l'as mentionné tantôt, à la réalité écosystémique dans laquelle s'inscrit le projet. Donc, s'inscrire auprès du MAPAC, c'est fait tout à fait naturellement. D'ailleurs, les ingénieurs forestiers sont déjà invités via les érablières, beaucoup. Il y en a quelques-uns déjà qui sont là, via leur expertise dans les érablières. Mais moi, j'arrive effectivement avec un autre concept qui est franchement très bien accepté. Et à toutes les occasions, j'ai de remercier cette ouverture-là. Tu sais, souvent, on a l'impression, et c'est souvent le cas, que le gouvernement est à la remorque de la communauté, qui est souvent un peu en arrière des entreprises, mais dans le cas du MAPAC, on peut dire que d'être aussi à l'affût de la permaculture, c'est quand même assez avant-gardiste. Et le directeur de notre région parlait de murs végétales à la dernière conférence, de toits verts, etc. Donc, ils sont très au fait de l'agriculture vivante et l'agriculture de pointe, celle qui va constituer, selon moi, les projets de demain, là, clairement.
Puis donc, avec un client, que disons un propriétaire de boisé privé, c'est quoi que le type de service que tu peux leur offrir? Puis comment ça marche, là, travailler avec toi? On s'attend à quoi?
Bon, d'abord, je voudrais remettre une forme de pendule à l'heure. Quand on parle de boisé, donc quand on parle de foresterie, je considère l'agriculture comme le degré zéro d'une forêt. Donc, je travaille aussi en milieu agricole, puisque j'ai l'équipe qu'il faut pour faire des travaux en milieu agricole. Donc, lorsque j'aborde une terre, on l'aborde de façon globale. Et lorsque je rencontre un client, je positionne d'abord les deux axes de développement principaux, c'est-à-dire le sauvage d'un côté et la culture de l'autre, l'agroforesterie. Et ma vision à moi est toujours de commencer par les ressources qu'on a sur la terre. Donc, c'est très personnel et souvent, je pousse pour aller davantage du côté de qu'est-ce qu'on a comme comestible sauvage ou plantes médicinales sauvages ou extraits végétaux sauvages qu'on peut utiliser pour la biofertilisation ou encore pour les biorépulsifs. Qu'est-ce qu'on a comme ressources avant de commencer à amener sur notre terre de nouvelles ressources qui, ma foi, ne sont jamais garanties. On a beau être le meilleur consultant du monde, jamais aucun consultant va être capable de garantir que les cultures qu'on met en place vont réussir à 100%. Ce serait d'une très grande prétention. Alors que l'écosystème, avec sa nature, avec sa production annuelle, qu'il fasse beau, qu'il fasse mauvais, qu'il y ait des extrêmes climatiques, réussit toujours, bon an, mal an, à produire sa quantité de nourriture et de plantes médicinales. Et ça, je pense qu'au Québec, on a un gros travail à faire pour générer des projets à partir des PFNL. Il y a une grosse volonté des gens de toujours vouloir introduire et de suivre des formes de mode aussi. Et le PFNL, on souhaite vraiment le voir sortir parce que c'est véritablement notre identité au Québec. C'est véritablement un produit qui a une génétique reconnue par l'écosystème et qui est mise en valeur, développée comme ça se fait de plus en plus. On a des jeans au Québec de plus en plus, justement, qui les utilisent, et j'ai plusieurs projets actuellement dont certains je ne peux pas encore parler, qui vont mettre vraiment d'aplomb le PFNL, le sauvage, donc les plantes indigènes. Ça, c'est quelque chose auquel je crois. Donc, en général, je veux pousser du côté l'expertise d'abord par rapport à ce qu'on a, et on va compléter dans un second temps pour accentuer la biodiversité avec des cultures multistrates, que ce soit en milieu agricole ou en milieu forestier. Il y a très peu d'endroits où on ne peut pas faire des cultures, il y a très peu de sols qu'on ne peut pas faire de cultures, étrangement, même dans un sol mince, on peut faire des buttes. Donc, les principes de permaculture sont vraiment intéressants dans beaucoup, beaucoup, beaucoup de cas en milieu forestier, mais c'est un défi. Le milieu forestier, c'est un milieu où il y a énormément de compétition. Introduire des cultures en forêt dans des trouées, par exemple, demande de bien connaître l'écologie des lieux, de bien connaître l'écologie de la framboise, pour une part, et de bien l'utiliser, parce que la framboise peut être un ennemi, mais elle peut aussi être d'une contribution vraiment importante pour éloigner la faune de nos cultures. Donc, on a réussi depuis quelques années à monter des projets qui visent à faire des cultures dans lesquelles on utilise la framboise sauvage comme répulsif naturel contre la faune. Donc, suite à des observations que j'avais faites dans des trouées forestières par le passé qui n'avaient pas marché parce que la faune, évidemment, venait jouer un rôle important, donc le chevreuil notamment. Et là, de plus en plus, on s'apercevait que ce qui avait survécu dans nos trouées forestières, c'était simplement les plantes qui avaient des épines. Donc, à partir de là, le raisonnement était, est-ce qu'on ne devrait pas garder les épines dans l'écosystème pour faire en sorte d'amener une protection naturelle contre le chevreuil? Et suite à quoi, maintenant, on fait quoi pour planter parmi les épines? Donc, tout ça est une dynamique écosystémique, c'est une réflexion écosystémique qui nous amène à prendre des décisions complètement différentes que si on regarde toujours les livres et que les livres nous disent on devrait faire telle ou telle chose et on reproduit toujours les mêmes recettes. Faire de la permaculture, c'est d'abord et avant tout, c'est mettre les livres de côté, puis c'est d'abord et avant tout regarder l'écosystème avec ses forces, ses faiblesses et générer à partir de ses faiblesses des forces. Enfin, c'est ma vision, c'est la façon que j'aborde un écosystème.
Mm-hmm. Puis, quand on fait, admettons, de l'observation des ressources comestibles sauvages sur un terrain, puis là, on vient à la question de l'inventaire, dans le fond, des PFNL. Souvent, les inventaires forestiers, là, dans ce cas-ci, sont faits avec une méthodologie qui doit être aléatoire pour s'assurer qu'on a une représentativité de tout le territoire. On prend des échantillons, parce qu'on peut pas regarder tout le territoire exactement. Mais comment on applique ça aux comestibles sauvages? Parce que si on laisse aller les méthodes aléatoires d'inventaire, ben ça se peut qu'on passe à côté de belles tales. Comment on fait l'inventaire de PFNL puis le potentiel d'une forêt quand on fait cette étape-là d'observation?
Ben, je pense que comme tout inventaire au départ, dépendamment de la surface, évidemment, je fais des inventaires parfois de 15 hectares, mais j'en fais de 150 et de 200 aussi sur plusieurs journées. Donc, à ce moment-là, ça prend une méthodologie de travail. Et comme je le dis à chaque année dans une des formations que je donne aux cueilleurs dans la Nodière sur le cours d'inventaire, ben ça prend à la fois une rigueur, c'est-à-dire une rigueur pour pas se perdre d'abord et avant tout, c'est-à-dire faire ce qu'on appelle en inventaire des virées, mais ça prend aussi beaucoup de flexibilité et ingrédients qu'on n'utilise pas tant en foresterie, c'est l'instinct. Donc, trouver des PFNL demande, je dirais, de l'expérience. Bien connaître les écosystèmes, bien lire la forêt sur place. Parce que le plan de sondage est évidemment un document essentiel pour déterminer le gros des déplacements. Mais déjà, au niveau de la photographie aérienne, je suis à même de pouvoir positionner assez bien les déplacements sur le terrain que je dois faire. Donc, mais sur le terrain même, j'hésite jamais et absolument jamais à me déplacer de ma virée planifiée pour aller vérifier des instincts sur place qui me permettent souvent de faire des trouvailles surprenantes et intéressantes. Donc, c'est un mélange entre l'expérience, je dirais, puis la méthodologie dite classique.
Puis comment tu donnerais un conseil à quelqu'un pour développer ses ressentis, cet instinct, puis cette lecture du paysage?
Ah mon Dieu! Encore là, c'est ça, j'ai écrit un article sur mon blog qui s'appelle « Le contact direct avec la nature », qui est un travail justement pour accentuer l'instinct, en fait, qui explique un peu mon approche, surtout dans l'inventaire écosystémique, l'inventaire que je fais préalablement à mes cultures en champ ou en friche, donc qui est un gros inventaire, mais je travaille beaucoup avec l'énergie du territoire. Donc, je vais donner un exemple d'un beau projet actuellement qui est en train de voir le jour dans le Bas-Saint-Laurent, Saint-Donat, qui s'appelle « L'arbre aux oiseaux ». Ceux qui se peuvent intéresser, ils ont une page Facebook vraiment cool, où on a eu à travailler à faire des baissières de récupération d'eau, donc à travailler à partir du relief à faire des baissières. Des baissières, c'est des espèces de fossés qui sont là pour capter l'eau de ruissellement et la diriger directement dans nos cultures. Donc, on avait un travail important à faire pour un futur verger commercial. On avait aussi à creuser deux bassins. Donc, un travail de 6 jours. Et j'ai demandé à mon équipe sur place de dormir sur place, de rester sur place pour entrer en contact, d'une part avec le projet, mais avec aussi les énergies du territoire que je considère vraiment importantes, qui sont partie prenante de beaucoup de mes projets. Et qui, comment ça se manifeste, comment ça se joue, je ne sais jamais, mais je sais une chose à la fin, si les choses se sont manifestées, le projet est réussi, il y a un plus aussi à l'intérieur de moi qui me dit « waouh, on a fait la job correctement ». Et prendre contact avec un écosystème, mais ça prend du temps. Et faire un inventaire qui n'est pas complètement rationnel, ça oblige aussi à le faire taire d'une certaine façon et à ouvrir les récepteurs du corps, si je peux m'exprimer ici, et amener des réponses qui parfois n'étaient pas prévues aux questionnements initiaux. Voilà.
Puis quand on passe de l'observation à l'intervention, est-ce que... j'ai l'impression qu'avec une approche plus du ressenti puis de l'instinct, on serait plus porté à faire des petites actions puis ensuite de revenir puis faire de l'observation. Tu sais, il y a comme une certaine crainte d'avoir des interventions trop grandes. Est-ce que je perçois ça ou bien des fois tu es appelé sur des chantiers dans lesquels on va utiliser une excavatrice, ce genre de choses.
Absolument. Écoute, le projet dont je te parle, on était dans l'excavation, effectivement, pour creuser les fossés, mais au préalable, j'avais fait un plan qu'on a suivi grosso modo, et je dirais que de jour en jour, le plan était de moins en moins pertinent et de plus en plus, les choses s'installaient. Quand je dis que je travaille avec les instincts, je néglige pas nécessairement le côté technique et scientifique, et je travaille avec certains de mes partenaires le sont davantage que d'autres, mais pour revenir au temps, dans mes cultures, pour travailler avec le chêne au pied bleu, je cultive ce que j'appelle l'esprit de la tortue. Alors dire, comme je l'entends souvent, que la permaculture s'inspire des écosystèmes et tout balancer dans un an, les études, puis jusqu'au reboisement, pour moi, c'est un non-sens. C'est travailler définitivement pas dans l'esprit de la nature. L'esprit de la nature, c'est quelque chose qui est lent. Et comme je le disais tout à l'heure, la permaculture étant nouvelle au Québec, donc moi, mes cultures, en général, je les fais sur plusieurs années. Dans le cas d'un champ, par exemple, c'est généralement entre 5 et 7 ans avant que je termine les cultures multistrates, c'est-à-dire que j'introduise les plantes herbacées sous les grands arbres, parce que généralement, je fais pas l'introduction de toutes les de toutes les strates en même temps, parce que la compétition au niveau du sol est beaucoup trop grande. On l'a fait déjà, puis on a constaté que ça fonctionne plus ou moins. Donc, c'est très long. C'est un processus d'observation, après ça, de correction de l'écosystème. Donc, la première étape, c'est l'inventaire. Après, on corrige l'écosystème. On n'est pas encore en train de planter, là. On est juste en train de corriger, ce qui veut dire corriger le sol ou amender le sol pour l'améliorer. Ça peut vouloir dire planter une haie brise-vent pour faire en sorte que la peau externe, parce que je parle bien de peau et non pas pas de strictement de brise-vent, parce qu'une brise-vent, c'est aussi une interface entre l'intérieur et l'extérieur, et elle doit jouer un rôle beaucoup plus important que strictement couper le vent. Donc, elle doit jouer aussi un rôle d'invitation pour les insectes, ou encore, c'est souvent là que je vais mettre mes plantes biofertilisantes qui peuvent être envahissantes dans nos cultures. Donc, ils sont souvent circonscrits par une haie brise-vent, donc introduits à l'intérieur de la haie brise-vent. Et là, on corrige, donc, quel que soit. Ça peut être le soleil, ça peut être, donc, on a 14 points dans l'inventaire écosystémique. L'inventaire me prend 10 heures en général. Et là, de là, on tire les forces de l'écosystème et les faiblesses, on travaille dessus, donc de manière à faire en sorte d'avoir un système de croissance végétale vraiment optimisé. Et là, on n'a rien de planté. Après ça, donc, on rentre vraiment dans les amendements du sol qui peuvent prendre jusqu'à 2 ans. Donc, c'est un travail qui est important. Le travail du sol, c'est fondamental. On va sauver dans le temps énormément d'interventions pour la suite si on a un sol qui est sa coche pour ce qu'on est en train de faire. Et après ça, généralement, on commence à penser à rentrer les arbres et les arbustes, donc dans un premier temps, et on va planter dans une aire de multiplication accessoire complètement à côté les plantes herbacées. Et là, on va montrer aux producteurs à partir soit de semences et à faire aussi ces divisions racinaires, etc., pour minimiser les coûts le plus possible, mais surtout pour forcer le producteur ou le client à se mettre la main dans la terre, mais aussi à s'impliquer dans son projet. Parce que tous les gens qui travaillent avec le chêne au pied bleu, il y a 0 client en main. Ces clients-là, je ne les prends juste pas. Alors, ce sont des clients que je veux qui s'impliquent. Et de faire les choses dans la lenteur implique nécessairement que le producteur, à toutes les étapes, s'implique et mette son grain de sel. Et le projet évolue d'une façon constante, un peu comme un travail d'artiste, en fin de compte, où on parle de travail en progression, work in progress. C'est la même chose avec mes constructions en permaculture. Donc, généralement, sur 7 ans, on a le temps de voir dans chaque étape les erreurs qu'on peut faire. Parce que oui, on fait des erreurs et oui, on va en faire encore. Mais on a le temps de voir et de corriger les choses, donc étape après étape. Et lorsque les arbres ont bien établi leur système racinaire, par la suite, on rentre nos herbacées, donc progressivement. Donc, ça donne un pattern où le producteur est impliqué dans la production de ses copeaux, dans tous les besoins de son écosystème. Il doit, à chacune des étapes, s'impliquer pour la mise en place de ces cultures. Donc ça, à date, moi, ça a donné les meilleurs résultats dans le temps, parce que j'en ai fait avant des travaux. On en a fait avec les vergers potagers forestiers ici, des cultures sur 1 an, avec des résultats parfois bons, parfois discutables, parfois mauvais. Et après des visites, année après année, aller voir ces cultures-là, donc j'en ai vu un bon pourcentage, ben j'ai apporté des correctifs dans ma pratique de manière à instaurer donc des systèmes qui sont beaucoup plus résilients dans le temps. Jusqu'à maintenant, en tout cas, ça donne des excellents résultats et on a des systèmes de croissance intéressants.
Mm-hmm. Je veux pas que la discussion vire sur une discussion entre initiés de la permaculture, mais il y a un outil important qu'on utilise souvent en design, c'est l'échelle de permanence, c'est-à-dire les domaines dans lesquels on intervient et qui sont les plus difficiles à changer et en même temps ceux qui auront le plus d'incidence sur l'écosystème sur lequel on applique. Ça fait qu'en début, c'est le climat, c'est ce sur quoi on a le moins de pouvoir, mais que si on arrive à transformer, c'est ce qui aura le plus d'incidence. Ensuite, la géographie, qui est le travail du sol dont tu parles, mais aussi la topographie, la pente, etc. Ensuite, bien sûr, la topographie a l'incidence sur l'hydrographie, comment le mouvement de l'eau se fait. Et ensuite vient la végétation. Et ce que je comprends de ton intervention, puis c'est pour ça que je faisais la différence dans les échelles d'intervention entre faire des petites interventions et ensuite voir les conséquences, c'est que on peut travailler en haut de l'échelle de permanence, par exemple en faisant de l'excavation, en transformant l'architecture de la topographie et le travail du sol. Mais ce que je comprends, c'est que quand on installe la végétation, il ne faut pas être stupide et aller en pépinière et s'acheter exactement le nombre d'arbres qu'on a de besoin sur nos 15 ou 150 hectares, mais plutôt de concentrer la végétation plus en mode pépinière, d'apprendre les techniques de reproduction végétale, que ça soit la division, que ça soit le bouturage ou ce qui est facile à faire pour la reproduction. Et de cette manière-là, on comprend mieux notre écosystème parce qu'on le voit évoluer et on apprend des savoir-faire qui nous font économiser vachement de l'argent au final. Est-ce que c'est oui, un peu ça l'approche?
Absolument. En fait, oui, l'argent, mais davantage encore. Oui, l'argent, évidemment, c'est important parce que ça coûte très cher si on achetait tout en pépinière. Les gens ne sont pas toujours conscients quand ils viennent me rencontrer des coûts que ça génère pour faire une culture multistrate complète. Et oui, mais le point, ce que je trouve le plus important, c'est l'implication moi, du client. C'est là que j'ai vu les plus grandes différences entre les gens qui font faire les trucs clés en main et les gens qui s'impliquent, se mettent les mains dans la terre. Et ça peut juste se faire dans la lenteur. Apprendre à faire des extraits végétaux, tu parles de bouturage, on pourrait aller du point de vue du greffage, mais je pense qu'on se rend à peu près jamais là. Oui, le bouturage et oui, la division racinaire. Ça, c'est des pratiques ou encore commencer par la semence. Ce sont des pratiques qui sont accessibles et il n'y a rien que j'aime plus que le client qui s'investit et qui s'investit, qui prend son temps, qui passe ses semences l'hiver et qui va mettre ses plants lui-même dans le champ, qui va par la suite produire ses divisions racinaires, multiplier lui-même ses plants. Et donc, l'idée d'aire de multiplication, pour moi, est vraiment le fun. Autant aussi pour la forêt, dans le sens de la forêt aussi. J'ai des clients qui vont avoir une aire de multiplication, mais qui visent à réintroduire des plantes en milieu forestier. Si on n'est pas capable de les diviser en milieu forestier, ça se fait à l'extérieur et on les ramène en forêt. Mais l'idée que le client touche, s'implique dans le processus. Moi, tous mes clients, ça devient avec le temps des gens que, tu sais, sur 7 ans, on s'entend qu'on va se fréquenter à chaque saison, qu'on va se parler. Je vais dormir chez eux la plupart du temps dans ma tente pour entrer en contact avec les énergies et les écosystèmes, comme je le disais tout à l'heure. Donc, on devient amis avec le temps. Et évidemment, c'est pas égal, c'est pas comme ça avec tout le monde, mais j'ai des gens là vraiment que je peux dire très rapidement que leur projet va marcher à 100% parce qu'ils ont le feu dans les yeux, là, clairement. Tu sais.
Mm-hmm. Il y a quelque chose que tu as dit tout à l'heure qui m'a touché, c'est, tu disais, l'agriculture, c'est le degré zéro de la forêt. Qu'est-ce que tu voulais dire?
Je veux dire, quand l'agriculture laisse la place à la... Quand on abandonne une aire agricole, là. Oui, effectivement, ça devient ce qu'on appelle en milieu forestier une friche. Donc, à partir de là, on intervient, malgré que j'interviens aussi en aire agricole, mais le degré zéro voulant dire que si on laisse la nature après une aire agricole laissée elle-même, donc laissée aux forces agissantes, ce que j'appelle les forces agissantes d'un écosystème, bien évidemment, il y a un cycle de reprise de possession de l'écosystème qui va mener éventuellement à la forêt. Donc, le degré zéro de la forêt, c'est la friche abandonnée, c'est la friche herbacée, en quelque sorte, qui deviendra friche arbustive et qui deviendra par le temps friche arborée et éventuellement forêt. Donc, c'est un cycle naturel et nous, on intervient dans chacun de ces cycles-là, donc pour introduire des concepts, carrément des forêts nourricières, ce qu'on appelle des forêts nourricières ou des concepts qui appartiennent aux forêts nourricières. En forêt, je parle davantage de jardins forestiers là, que de forêts nourricières parce qu'on a eu par le passé des discussions au niveau de la terminologie exacte des choses auxquelles j'accorde une certaine importance, mais dans les faits, j'accorde une importance davantage à ce qui se passe dans le milieu que dans le langage. Ceci dit, maintenant, je parle de jardin forestier davantage et d'application de concepts de forêt nourricière en milieu forestier pour mettre les choses plus au clair.
Non, mais les termes sont importants parce que, puis je veux pas faire un débat sur les termes, mais on va faire, ça nous éclaire sur les processus qui sont derrière. Donc, ce que tu nous as expliqué, c'est le processus de la succession écologique, hein, que tu es à une suite à une perturbation, que ce soit l'agriculture, un feu ou des insectes, la forêt revient à un stade précédent, souvent herbacé, pionnier, puis se rend vers les arbres et la forêt.
Ouais, okay? Exact.
Mais est-ce que tu essayes de faire avec ton travail, ce sont des milieux nourriciers multistrates, c'est-à-dire qu'ils ont à l'intérieur d'eux-mêmes pratiquement toutes les étapes de la succession pour maximiser leur productivité puis leur biodiversité. Okay? Mais quand on part de la prairie, ce qu'on doit faire, c'est installer des nouvelles strates arbustives et arborescentes et les autres, là, les racines, les lianes, etc. Mais quand on part de la forêt, ce qu'on doit faire, c'est plutôt faire revenir le processus de succession en arrière en créant des perturbations, en créant des trouées, en faisant rentrer le soleil. Donc, il y en a un qui fait avancer le processus de succession de la prairie vers la forêt et de l'autre où on fait revenir de la forêt à la prairie. Et ce que j'appelle passer de la prairie à la forêt, c'est la forêt nourricière. C'est-à-dire quelqu'un qui a un gazon, une prairie et qui veut construire un écosystème multistrate, on va lui dire on va faire une forêt nourricière. Et si on est en forêt avec une canopée, c'est-à-dire une ombre totale sur le sol, on va faire un jardin forestier pour augmenter les strates. Est-ce que c'est un peu ça là, la terminologie dont on parle?
D'une certaine façon, comme tu l'apportes là, oui, tout à fait. Il y a une autre façon que je l'avais apportée sur un texte que j'ai écrit déjà sur Facebook, qui finalement positionne la forêt nourricière. D'abord, d'un point de vue philosophique, la forêt a toujours été nourricière. Donc, pour moi, c'est déjà d'apporter une nuance importante par rapport au terme de forêt nourricière. Mais l'équation que je faisais dans l'article en question, c'était le rapport qu'il y a entre culturel et naturel dans les deux écosystèmes. C'est-à-dire que en forêt, évidemment, l'apport naturel est très, très grand. Donc, ce que j'ai comme écosystème au départ est déjà très, très, très fort, très présent. Alors que si tu pars d'une pelouse, évidemment, l'apport culturel est très, très fort et l'apport naturel est très, très faible. Si tu es dans une friche intermédiaire, là, donc tu vois un peu le ratio qui se joue entre le naturel et le culturel selon le degré d'évolution d'un écosystème. Donc, quand je parle de forêt nourricière, si on veut s'entendre sur un terme qui fait école, je dirais, donc je peux aller facilement dans le sens que tu l'emploies et parler de jardin forestier. Donc moi, ce que je fais généralement quand je parle de, je compare ça beaucoup à la sculpture, le milieu forestier par rapport au milieu agricole. En sculpture, généralement, on va travailler de procédés additifs, donc ce qui serait celui de la forêt nourricière, alors que en forêt, on parlerait de procédés qui seraient soustractifs. Donc pour faire une métaphore avec la sculpture, c'est un peu la même chose. En forêt, évidemment, il faut créer de la lumière la plupart du temps, parce qu'une forêt, si on la laisse aller elle-même, va généralement avoir très peu de lumière au sol, jusqu'à une absence parfois complète de plantes herbacées. Donc, les forêts telles qu'on les connaît, et si on veut créer au final ce qui va devenir une forêt nourricière, parce que tu sais ce que tu dis là, dans beaucoup de pays, par exemple en Amérique centrale, on a des forêts nourricières aussi, et dans lesquelles on part et on tient compte aussi on part de forêts, on part de trouées forestières, et dans lesquelles on tient compte aussi du capital de départ, ce qu'on appelle ici les produits forestiers non lieux, et on construit autour. Donc, en fait, on est dans la terminologie, puis selon les endroits où on est ou selon les auteurs qu'on a fréquentés, je devrais dire, bien, les terminologies changent. Même chose pour la permaculture et les pratiques de la permaculture. Tout ça est tellement neuf qu'il n'y a pas encore d'homologation, je pense, de la terminologie qui soit absolue, puis on pourrait en débattre longtemps. Quand je dis que j'accorde une importance secondaire avec ça, écoute, l'étudiant en littérature, effectivement, les mots ont leur importance. Mais je ne passerai pas des heures à débattre là-dessus. En quelque sorte, je peux faire de loin mettre l'énergie sur un rapport à l'écosystème et un rapport au travail que je fais, en quelque sorte.
Absolument. C'est quoi la place des champignons dans les aménagements que tu proposes ou dans le travail que tu fais?
Ben, les champignons sont très, très présents, puis ils sont très présents aussi actuellement au Québec chez les gens, tu sais, la volonté de faire des choses au niveau des champignons. Donc, au niveau du champignon, si je prends encore mes deux axes de développement, le champignon, on le travaille du point de vue de la culture et on le travaille aussi du point de vue de l'écosystème. Donc, actuellement, on essaie de mettre en place ce que j'appelais tantôt une sylviculture qui tienne compte du potentiel nourricier des écosystèmes. Mais le champignon en fait partie. En Europe, on parle beaucoup de micro-sylviculture. Au Québec, on n'en parle pas encore parce que, disons qu'on en parle, mais on n'en fait pas. Et actuellement, je suis en train d'essayer de penser une sylviculture des forêts coniférienne qui vise à la fois à valoriser l'arbre et à valoriser les champignons. Jusqu'à maintenant, les efforts qui ont été faits surtout au niveau de travailler l'écosystème, de stimuler ce que j'appelle l'appel mycorhizien, de manière à stimuler les forces agissantes d'un écosystème et lui faire en sorte qu'il y ait davantage de fructification dans des espèces qui, parfois, ce n'est pas toujours les espèces qu'on veut avoir. Donc, on travaille sur l'écosystème, on ne peut pas être monospécifique, on ne peut pas travailler sur des espèces spécifiques. On n'est pas rendu là en termes de connaissances écologiques de nos champignons au Québec. Donc, c'est un aspect de notre travail actuellement qu'on est en train de mettre en place. Le deuxième aspect, ben, c'est la culture de champignons, ça profite, le champignon sur bio et sur bois. Donc, je donne des formations sur un an. Donc, j'appelle formation avec accompagnement, donc qui nécessite, qui est un travail que je fais avec un travail personnalisé, si je peux m'exprimer ici, avec les clients. Et donc, ça part de novembre et ça finit en novembre. Donc, on suit tout le processus, donc choix, mise en marché, quels sont les intérêts du client, quelle est la mise en marché qu'il veut faire avec ses champignons, les forces, les faiblesses des champignons, la stérilisation. Les arbres qu'il nous faut produire pour les nourrir et la formation terrain aussi, c'est-à-dire que sur le terrain, on fait une démonstration sur bio, on fait une démonstration comment monter une plate-bande, l'entretien par la suite, les hygromètres qu'on peut utiliser et après ça, le suivi mensuel où on se parle, on s'échange des photos, etc. pour quand il y a des problèmes, agir le plus rapidement possible parce qu'on oublie souvent que la myciculture, c'est un domaine aussi qui, c'est souvent les formations nous laissent croire, parce que j'en donnais avant, des formations de 3 ans nous laissent croire que c'est facile. Mais souvent, il y a des impondérables et depuis quelques années, on en a de plus en plus avec le climat et ces soubresauts, là, des pluies de fou en juin et suivi de sécheresse. Donc, c'est là que ça prend une importance d'avoir quelqu'un à qui parler pour dire, hey, wow, il y a de la moisissure dans ma plate-bande, on fait quoi, là? Puis rapidement, t'sais. Donc, mon téléphone est ouvert pour cette formation-là, 7 jours sur 7, parce que 48 heures, parfois, c'est trop tard. Donc, il faut être là tout le temps. Et quand on a des problèmes, j'ai toujours à mes étudiants, ben, c'est pas une mauvaise chose d'avoir des problèmes. Ben, si on a une année parfaite, les années où je serai pas là pour résoudre les problèmes, il y a moins d'apprentissage d'une certaine façon aussi. Il n'y a pas des inconforts à régler en quelque sorte. Donc, on fait des formations et on intervient aussi au niveau des écosystèmes comme tel, au niveau de champignons sauvages. Sinon, on fait aussi, excuse Sam, on fait aussi des plantes cueillettes de champignons. Qui vise à faire un portrait des champignons qui sont sur une terre, champignons sauvages. On traite 112 champignons. Et donc, on détermine les écosystèmes dans lesquels on devrait retrouver ces champignons-là avec des fiches techniques d'identification, des calendriers de cueillette. Donc, on fait ça. En fait, on fait ça pour tous les PFNL, les plantes cueillettes, qui sont des outils pour permettre aux propriétaires de boisés ou de champs ou de terres de prendre possession des plantes indigènes ou médicinales, des plantes indigènes en général, que ce soit comestibles ou médicinales. On fait des plantes cueillettes.
Donc, si je comprends bien, pour la culture de champignons, ce que tu as appelé les champignons saprophytes, qui sont les champignons qui décomposent le bois mort, ça, c'est sans être simple, on a quand même les méthodologies, il y a eu beaucoup de recherches là-dessus, puis on sait comment le faire. Bon. Pour les champignons symbiotiques, ceux qui sont en relation avec les racines des arbres, tu sembles dire qu'on ne sache pas vraiment comment en faire la culture ou comment l'encourager. Ce que tu as appelé l'appel mycorhizien, c'est en fait créer les conditions favorables pour avoir l'émergence de ces champignons-là.
Oui,
c'est ça?
Exact. Effectivement, donc c'est travailler sur l'écosystème de manière à générer davantage de fructification. Pour Par exemple, si on s'attaquait à un ou deux espèces, généralement, quand on fait un travail sur ce genre d'approche-là, on va essayer de sélectionner un ou deux champignons et faire un portrait le plus précis écologique qu'on peut avoir pour définir certains paramètres de culture de ces champignons-là, d'émergence. Donc, généralement, il faut que je me réfère en Europe pour beaucoup, par exemple, la chanterelle, il y a beaucoup d'études qui ont été faites en Europe pour définir ces paramètres écologiques-là. Donc, ces limites, par exemple, de surface terrière, à partir de quelle surface terrière elle apparaît, à quel âge dans l'évolution de l'écosystème ce champignon-là apparaît et à quel âge il disparaît, parce que les champignons qui sont dits pionniers, il y a des champignons qui sont intermédiaires dans la vie d'un écosystème et il y a des champignons qui sont plus tardifs dans l'écologie, toujours dans l'évolution d'un écosystème. Donc, comment il apparaît dans l'écosystème, de manière à travailler, parce que dire qu'on travaille sur l'appel mycorhizien, donc il y a des études qui démontrent clairement ici au Québec que plus un champignon, plus un arbre a un appel mycorhizien fort, plus il est à la recherche de partenaires potentiels, bien, il y a des fenêtres, il y a des moments pour intervenir dans un écosystème forestier, parce que un arbre a une jeunesse, il y a un âge mature, il y a un âge adulte, il y a un âge mature, puis un âge de vieillissement, comme tout être vivant. Et donc, l'appel mycorhizien, comme à peu près tout l'être vivant, varie aussi dans le temps. Donc, il y a des fenêtres pour intervenir, il y a des moments aussi pour intervenir au niveau évolutif de l'écosystème. Donc, il y a des fenêtres, des changements, si on veut, de garde dans l'écosystème, où là, il y a des changements au niveau des partenaires des racines mycorhiziennes. Donc, c'est assez fragmentaire ce qu'on a comme documentation au niveau de l'écologie spécifique des champignons et au-delà de 10 champignons actuellement dont j'ai fait les portraits écologiques, c'est très difficile d'avoir des paramètres pour intervenir d'une façon juste et précise sur des espèces en particulier. On a des connaissances au niveau, par exemple, du caractère compétitif de certains champignons par rapport à d'autres. Il y a des champignons qui sont reconnus pour être des champignons compétiteurs davantage que d'autres. Donc, on a des connaissances sur les écosystèmes qui sont plus favorables aussi aux échanges mycorhiziens, notamment les plantations par rapport à la forêt naturelle. Donc, il y a des endroits où on peut davantage interagir que d'autres. Mais plus on est dans un écosystème qui est naturel, plus l'action qu'on va faire dessus va certainement générer plus de fructification, mais on ne peut pas toujours, et on ne peut, je dirais, pas tellement garantir que ce sera les espèces qu'on veut avoir, à moins de connaître de façon très précise l'écologie du champignon. La chanterelle, encore, on la connaît assez bien. Il y a certains autres champignons, quelques autres dont on a des bonnes caractéristiques écologiques. Certains d'entre eux sont pas nécessairement de grands compétiteurs. Donc, il y a tout ça, quand on aborde un projet comme ça, à regarder. Et l'expérimentation, tant qu'à moi, est à faire encore beaucoup, beaucoup au niveau des connaissances pratiques, au niveau des écosystèmes, du travail qu'on peut faire avec les champignons. Donc, c'est à se faire actuellement, mais c'est très expérimental. Tu sais, quand j'embarque dans des projets comme ça, je vais dire à mes clients, c'est clair qu'on est sur la ligne des connaissances actuellement et que si on veut des valeurs sûres, si on veut des valeurs qui ont fait leur preuve, tu parles des champignons, ça profite, effectivement, on maîtrise assez bien la plupart des cultures, pas tous. Des champignons, ça profite. Il y a des champignons qui offrent encore de très, très grands défis là, au niveau de la culture, donc ils ont des degrés de difficultés différents. Mais au niveau du symbiote, on est sur la ligne actuellement des essais et des résultats donc qui sont plus difficiles à prévoir et à prédire. Et je pense que c'est important de le dire. Puis de définir le profil du client, quel genre de client es-tu et qu'est-ce que tu veux finalement comme résultat. Moi, j'ai des clients qui sont qui veulent des valeurs sûres, qui veulent être certains qu'ils vont avoir leurs champignons dans leur panier. Puis j'ai des clients qui me disent non, moi, si ça marche, moi, c'est la recherche qui m'intéresse, on le fait. Alors, c'est à ce moment-là, un client qui me dit oui, on le fait, ben on embarque dessus. Et si j'ai des partenariats à faire au niveau pour qu'on travaille en équipe, parce qu'ici on travaille beaucoup en équipe, on va rassembler les gens autour d'une table Et s'il nous manque des experts, on va aller les chercher, on va leur proposer de travailler en partenariat pour monter le dossier ensemble. Parce que moi, je ne porte pas tous les dossiers sur mes épaules, loin s'en faut. Là. Je suis plutôt un intégrateur des forces, des consultants qui sont autour de moi. Mais parfois, tu sais, quand on a fait les terrasses dans le Bas-Saint-Laurent, je suis allé chercher Ferme d'Abondance, je suis allé chercher Alexandre Dagenais, qui est vraiment quelqu'un de très, très fort avec la pelle, qui connaît bien la permaculture, et on a travaillé ensemble à monter ce projet-là ensemble et à définir comment on allait faire le projet, etc. Et ça a donné quelque chose que je trouve vraiment très, très bien, vraiment très, très, un très beau projet. Donc, c'est la même chose pour chacun des projets où là, je sens que j'atteins, moi, mes limites, c'est-à-dire j'ai mes limites au niveau actuel des choses, et si besoin s'en faut, je vais aller chercher les gens qui sont compétents, on va s'asseoir ensemble, on va définir le projet. C'est ce que je fais aussi avec Louis Lafèvre de Adapteur, c'est ce que je fais aussi avec Paysage Gourmand, c'est ce que je fais avec Anaïs au niveau des plantes médicinales, parce que plus je travaille en symbiose, justement, à l'image de la forêt avec ces gens-là, mon Dieu, ça développe tellement des... C'est par exemple mes plantes cueillettes avec les plantes médicinales sont tellement plus performants maintenant que je travaille avec Anaïs que sur les premiers que je faisais au départ quand j'étais à la coopérative Forvalco. C'est une toute autre couleur qu'elle apporte à mon plante cueillette. Donc, c'est le même pour tous les projets finalement. Donc, aller sur la ligne pour moi, ça veut dire davantage aller chercher des partenariats que faire un inventaire de PFNL pour moi que je fais depuis très longtemps et que j'ai beaucoup moins besoin au niveau de l'inventaire de ressources complémentaires en quelque sorte.
Mm-hmm. Ah, ben, ce partenariat-là, puis le modèle de coopératif, là, mais pas, peut-être pas au sens légal, mais au sens des échanges que tu as, c'est une belle manière de mimer les écosystèmes, puis où chacun a sa niche écologique, puis peut participer de la richesse, puis de la biodiversité. Peut-être juste pour finir, là, tu sais, on sent la rigueur, on sent la passion et on sent aussi une âme d'artiste. Puis je pense qu'il y a ce côté-là aussi, si tu veux en parler un peu de l'importance de l'esthétique dans les aménagements que tu veux apporter.
Oui, non, effectivement, l'esthétique, c'est pour moi ce qui reste de mon travail en art nature, lorsque justement, en fait, il reste ça, puis il reste les énergies du territoire. Parce que les énergies du territoire qui font partie de ce que j'ai parlé tantôt, mes inventaires écosystémiques, ça a déjà commencé. C'est un travail que je faisais déjà, que j'ai fait en Afrique, que j'ai fait sur les îles du Saint-Laurent ici, à partir de mes ancêtres. Mais bon, on rentrera pas là-dedans aujourd'hui. Mais l'esthétique, oui, effectivement, dans l'inventaire écosystémique, c'est un des points de l'inventaire. Quelle est l'esthétique à mettre en valeur ou quelle est l'esthétique à ne pas détériorer? Par exemple, je reviens au projet dans le Bas-Saint-Laurent où on a fait les terrasses. Évidemment, les terrasses sont orientées en fonction du relief naturel, mais le point de vue qu'on a développé à l'intérieur, donc par exemple l'axe principal entre la maison et le lac où on l'a positionné, se positionne exactement à un endroit où le soleil se couche, dans la région où le soleil se couche à certaines périodes de l'année, et ça offre évidemment une esthétique absolument hallucinante. Et le défi, évidemment, était aussi de ne pas masquer de la maison la beauté de la vallée, parce qu'on est vraiment dans une sublime vallée à Saint-Donat-de-Rimouski. Donc, c'est à la fois mettre en valeur et c'est à la fois aussi être capable de détecter cette esthétique-là de manière à ne pas la masquer maladroitement par des arbres qui viendraient avec le temps recouvrir la beauté d'un soleil ou d'une rivière. Wow, non, c'est clair. Oui, donc, l'esthétique, ça fait partie de mon travail, clairement.
Puis, Daniel, c'est où que les gens peuvent te rejoindre, puis faire affaire avec toi?
Ben, par rapport, ben, évidemment, toujours mon téléphone, mon site web, lechêneaupiedbleu.com, ma page professionnelle de Facebook, qui, au nom du chêne aux pieds bleus aussi, donc, peuvent me rejoindre avec mon téléphone. Est-ce que je donne mon téléphone ou...
Je vais mettre le lien à ton site internet sur lequel il y aura probablement les contacts.
Tout le nécessaire pour me rejoindre, donc... Ça me fait plaisir donc de parler avec des gens motivés, parce que c'est des gens motivés généralement qui viennent au chêne aux pieds bleus.
Daniel Lachance, merci d'avoir été avec nous
écoute,
aujourd'hui.
Ça me fait vraiment plaisir. Merci Sam d'avoir pensé à moi. À la prochaine.
À la prochaine.